Donc aujourd'hui, on va avoir un thème, on continue un peu dans le thème que nous avons. Depuis le début d'année, on a regardé un peu le thème de l'écoute, hein, donc des prédications, comment écouter Dieu, comment comprendre, saisir ce que Dieu veut nous dire. Il nous parle à travers le Saint-Esprit, il nous parle à travers la parole, à travers différentes façons qu'on a besoin d'apprendre ou de développer pour que nous puissions vraiment comprendre, entendre ce que Dieu veut nous dire. Ensuite, après l'avoir parlé, écouté la voix de Dieu, on a besoin d'obéir, on a besoin de mettre en action ce que Dieu nous a dit, ce que le Saint-Esprit nous a révélé dans le cœur et dans notre esprit. Et depuis quelques semaines, justement, on est en train de regarder comment que Jésus a mis en place l'Église, le corps du Christ. Quelles sont les raisons d'être de l'Église? Et aujourd'hui, on va regarder comment que Jésus aime l'Église et comment que nous sommes encouragés à aimer l'Église, le corps du Christ. L'Église, c'est-à-dire le corps universel, c'est-à-dire toute l'Église, mais aussi l'Église locale, dans le sens de pouvoir ce que Jésus a fait pour l'Église, nous pouvons aussi voir que, comment aimer à notre tour Jésus-Christ à travers aussi l'Église. Prochain diable. Donc, avant de commencer, un texte qui est vraiment fort, Romains chapitre 12, verset 2, vous pouvez ouvrir votre Bible. On a regardé ça dernièrement avec les leaders aussi, pour qu'on puisse réaliser qu'est-ce que Dieu nous demande, ce que Jésus-Christ nous demande aussi par rapport à aimer l'Église. Regardez Romains chapitre 12, verset 2 qui dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent. Le commentateur biblique MacArthur va dire par rapport à ce mot, se conformer, il dit, c'est adopter une expression extérieure qui ne reflète pas ce qui est vraiment à l'intérieur, une sorte de mascarade ou de comédie. La forme du mot implique que les lecteurs de Paul vivaient ainsi et il leur recommandait d'arrêter. Donc, on voit que dans ce texte, Paul va leur dire de ne pas se conformer. Donc, ils voient que les chrétiens, malgré qu'ils ont choisi Dieu, malgré qu'ils ont choisi de suivre Jésus-Christ, ils continuent de se conformer au monde actuel, au monde présent. Ils continuent d'avoir les pensées de ce monde, ils continuent d'avoir des actions, des façons de faire comme le monde était autour d'eux. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On peut justement être un chrétien de nom, un chrétien extérieur, dans le sens qu'on démontre par l'extérieur tout ce que nous sommes un bon chrétien, qu'on va à l'église, qu'on fait des belles choses, qu'on prie, qu'on lit la Bible et comme ça. Mais à l'intérieur, les choses n'ont pas changé. À l'intérieur, nous sommes toujours en train de se conformer au monde présent. On est encore en train d'avoir les pensées de ce monde, au lieu que Dieu renouvelle notre intelligence, que Dieu transforme notre façon de voir, de penser, pour que nous puissions avoir les pensées du Seigneur. Donc voilà pourquoi que Paul va dire justement aux Romains que lorsqu'on accepte d'être transformé par Christ, ça a un impact dans notre être intérieur et autant extérieur aussi. C'est notre façon de penser, d'agir, de se comporter qu'on a besoin de changer. Et ça passe par avoir un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé qui est imprégné de la parole de Dieu, qui est contrôlé par Dieu. La parole de Dieu nous transforme pour que nous ne soyons pas juste des chrétiens de surface, mais des hommes et des femmes qui laissent le Saint-Esprit travailler en profondeur pour nous transformer et permettre d'avoir un esprit renouvelé de la présence de Dieu, de la pensée de notre Seigneur. Autrement dit, donc, nous devons penser comme Dieu pense, tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Alors, c'est là qu'on fait l'expérience d'être clairement dirigé par Dieu dans toute notre vie. Et voilà pourquoi qu'à ce moment-là, nous allons découvrir sa volonté, qui est loin d'être difficile, mais qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Voilà pourquoi on va dire, Seigneur, je désire être renouvelé dans mon esprit pour comprendre, saisir quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Prochain diable. Le commentateur MacDonald va dire qu'il y a trois clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Vous pouvez le noter sur un papier. Trois clés indispensables. La première, c'est un corps offert. Et on le voit dans Romains chapitre 12, verset 1, donc le verset juste avant. Il dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Je vous invite donc, frères, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cette volonté de Dieu qui est bonne, qui plaît au Seigneur et qui est parfaite, est une image justement de ce que devrait être le sacrifice qu'on doit avoir en tant que personne vers Dieu. Nous donnons notre vie comme dans l'ancien temps, on donnait un animal pour demander sa grâce, le pardon, on offrait un animal, mais on prenait un animal qui était saint, un animal qui était pur, qui était sans tache, sans défaut, pour montrer à Dieu qu'on voulait lui donner le meilleur comme animal pour pouvoir demander la grâce, le pardon de Dieu. Aujourd'hui, nous donnons notre vie à Dieu comme un sacrifice, c'est-à-dire qu'on se donne entièrement, on donne le meilleur de nous, pas juste quelques heures par semaine, le dimanche, ou peut-être lors d'une activité de l'Église, mais à chaque jour, à chaque instant, on donne notre corps, notre esprit, notre pensée à Dieu, pour qu'il puisse continuer de nous transformer, pour que nous puissions agir selon sa grâce, selon sa volonté. Le deuxième point qu'on voit, c'est la clé indispensable, la connaissance de la volonté de Dieu, une vie séparée du monde. Et on peut le voir dans Jean chapitre 15, verset 19. Nous n'appartenons pas au monde, sinon le monde nous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. On ne peut pas dire que nous appartenons à Christ, tout en vivant dans le monde actuel. Parce que la société d'aujourd'hui, comme du temps de Paul, ne suit pas les préceptes de Dieu, est contrôlée par Satan, qui veut remplacer Dieu. Et on le voit encore aujourd'hui comment que de plus en plus, on veut rayer Dieu de la carte. On veut dire, mais Dieu n'est plus au contrôle de ce monde. Et on a besoin, comme Jean 15 le dit, comme Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit à ses disciples quelque temps avant d'être crucifié sur la croix, que vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi et tiré du monde. Donc, on doit avoir cette attitude de cette vie séparée du monde. Oui, on est dans le monde, on vit avec les gens de la société, on doit manger comme les autres, on doit travailler comme les autres, on a aussi à payer les impôts comme les autres, on doit aussi régler les problèmes, les défis comme les autres. Mais en dehors de cela, on ne doit pas avoir les pensées de ce monde. Les pensées de ce monde qui sont là pour l'attirance par rapport à l'argent, la possession, le besoin d'avoir beaucoup, l'orgueil de la vie, l'assurance que le monde peut nous donner, tout ce que le monde ou le travail peut nous donner. Mais on doit se séparer pour pouvoir dire Seigneur, je vais te renouveler mon esprit pour avoir tes pensées, afin que je puisse agir selon toi. Et troisièmement, prochain vient, une expérience renouvelée, une intelligence transformée. Donc, pour arriver à offrir notre corps comme un sacrifice qui est sain et agréable à Dieu, on doit avant tout, justement, que notre intelligence, notre esprit soit transformé par la présence de Dieu. On peut essayer par nous-mêmes d'essayer d'être transformé par Dieu. On peut essayer par nous-mêmes de faire des bonnes choses pour Dieu. Mais on va voir qu'à un moment donné, ça va être limité, parce que ce sont nos propres arguments, c'est nos propres initiatives. Voilà pourquoi on a besoin de dire, Saint-Esprit, viens changer mon esprit, viens renouveler ma pensée. Parce que moi, en tant qu'humain, je suis peut-être poussé par le mal, je suis poussé peut-être à faire comme mes amis et mes connaissances autour de moi. Mais aide-moi, par ton esprit, à être transformé. Aide-moi à avoir une intelligence qui vient de toi, et non pas de moi, non pas de ce que je vois autour de moi. Aujourd'hui, nous allons encore demander à Dieu d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, afin d'être capable d'être l'Église selon son cœur, selon sa volonté, d'être capable de discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire, de comment on doit appartenir à ce royaume de Dieu, comment on doit le vivre et le propager autour de nous. On doit continuellement, justement, être à l'écoute de Dieu, afin de discerner cette volonté du Seigneur, pour nous personnellement, mais aussi pour l'Église. Voilà pourquoi que notre importance, que notre esprit soit renouvelé. Voilà pourquoi que c'est important que notre intelligence soit transformée, afin que seule la volonté de Dieu et non la nôtre habite en nous. Prochain dia, il y a quelques semaines, on avait vu quelques raisons d'être de l'Église. Comment vivre pour vivre cette passion de Dieu? Comment être une Église équilibrée et qui va de l'avant? On va juste rappeler quelques points pour qu'on voit dans l'importance que notre esprit soit renouvelé, pour qu'on puisse comprendre quel est le mandat de l'Église et comment est-ce que nous pouvons aussi agir en tant que personne faisant partie de l'Église. Le premier point, c'est exercer un ministère auprès de Dieu à travers l'adoration. Comme nous l'avons fait ce matin, à travers la louange, à travers la prière, nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous sommes venus, l'Église se rassemble pour pouvoir louer, reconnaître la majesté de Dieu, reconnaître sa puissance. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit « Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Donc, l'adoration dans l'Église n'est pas simplement une préparation à la prédication ou par rapport à quelque chose d'autre après. Elle accomplit pleinement le but majeur de pourquoi nous nous réunissons en tant qu'Église. On vient pour adorer Dieu. On vient pour reconnaître sa grandeur, sa majesté. Voilà pourquoi l'important, justement, le matin, de rentrer dans cette grande adoration. Voilà pourquoi que chaque matin, quand vous vous levez, c'est bon de pouvoir louer le nom du Seigneur. Soit à travers, vous prenez mettre un, sur votre cellulaire une musique chrétienne ou de simplement louer, adorer par un chant. Pour simplement pour dire, Seigneur, je te remercie dès le début de cette journée parce que tu es présent, parce que ton esprit est là, parce que tu continues d'agir à travers nous. L'Église doit être aussi ce lieu d'expression, d'adoration, de louange vers celui qui nous a tout donné. Le deuxième point que nous avions vu, c'est exercer un ministère auprès des croyants, c'est-à-dire de nourrir. Lorsqu'on vient adorer le Seigneur, on vient aussi pour être nourri, pour pouvoir être, pour grandir, progresser dans notre cheminement avec le Seigneur, mieux comprendre ce que veut dire justement d'être avec le Seigneur. Éphésiens 4, versets 11 et 13, on connaît très bien ce texte. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que tous ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Donc, selon l'Écriture, l'Église a l'obligation d'éduquer ceux qui sont déjà croyants et de les amener à la maturité dans la foi. Voilà pourquoi on dit que l'Église doit pouvoir nourrir, à faire des disciples. Nous ne sommes pas juste appelés à convertir les gens, à rassembler les gens dans l'Église, mais on est appelés à faire des disciples, c'est-à-dire que les gens deviennent des gens qui suivent Christ, qui jour après jour suivent les préceptes de Dieu, puissent suivre la volonté que Jésus nous a donnée. Voilà pourquoi que justement Dieu nous donne différents dons dans l'Église, afin que chaque croyant puisse grandir pour faire un véritable disciple. C'est difficile de grandir dans notre vie chrétienne si nous ne participons pas à l'Église, à la vie de l'Église. Parce que c'est à travers nos frères et sœurs, c'est à travers les célébrations, c'est à travers les rencontres de l'Église que nous grandissons. C'est à travers ces temps que nous sommes ensemble, que nous regardons la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous est éclairée, que la parole de Dieu nous permet de mieux comprendre ce que Dieu veut aussi pour nous. Nous l'avons vu la semaine passée justement avec les dames, comment que ils ont mis leurs dons, leurs talents au service de Dieu, au service de l'Église. Et comment nous avons été bénis autant par ceux qui ont amené la louange, autant par notre sœur qui a amené la prédication, autant par les témoignages, par leur façon d'apporter aussi les cadeaux, la nourriture. Dieu donne des dons et des talents à chacun pour que nous puissions en tant qu'Église exprimer la reconnaissance, l'adoration, pour que nous puissions continuer de nourrir pour aller, pour progresser, pour aller de l'avant. Prochain diable, le troisième raison d'être de l'Église, c'est exercer un ministère dans le monde, l'évangélisation et la miséricorde. On connaît très bien ce texte, Matthieu 28, 19, 20, qui dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour. » Jusqu'à la fin du monde. Dans ce texte, dans cette mission que Jésus a confiée avant de retourner vers son Père, il nous encourage à partager cet évangile. On ne peut pas, tout ce qu'on a reçu du Seigneur, on ne peut pas le garder pour nous. On a besoin de le partager par les paroles, par les actes de bonté, d'amour. Et ça se fait justement à travers la parole pour l'évangélisation, mais ça se fait aussi justement à travers des actes de bonté, des actes de miséricorde. Les gens vont voir Jésus-Christ lorsqu'ils vont voir chacun de nous qu'on est prêt à partager du temps avec eux, qu'on est prêt à leur donner la grâce et l'amour de Dieu à travers un geste, à travers une activité, à travers un besoin qu'on peut le combler. C'est vrai que cet aspect d'évangélisation, de miséricorde depuis la pandémie, notre Église a un peu laissé de côté. Vous allez le voir tout à l'heure avec l'Assemblée annuelle, on le voit à travers les chiffres, vous allez le voir à travers les chiffres. Mais on doit réfléchir, prier pour dire, Seigneur, maintenant, comment est-ce qu'on doit reprendre ce moyen d'évangélisation? Comment est-ce qu'on peut partager l'Évangile autour de nous? Comment est-ce qu'on peut être ce témoin de miséricorde, de bonté, de compassion vers les gens autour de nous? Et le quatrième point, prochain dia, la raison d'être de l'Église, être le pilier et le contrefort de la vérité. La vérité est ce qui est conforme aux faits, aux réalités. La façon dont les choses sont en réalité. Jésus va dire dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Donc, ce n'est pas seulement le fait de le connaître ou de croire la vérité qui nous libère, mais c'est d'obéir à cette vérité et de la mettre en pratique qui va nous libérer. Qui va nous libérer justement des pensées de ce monde, qui va nous libérer des façons de faire que nous avions avant de connaître Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas simplement venu témoigner de la vérité, il a prétendu être la vérité. Regardez dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est venu pour témoigner de la vérité, afin qu'on puisse par la suite être à travers l'Église cette vérité, qu'on puisse proclamer cette vérité de Jésus-Christ, qu'on puisse le démontrer par nos actes, par nos paroles, par nos façons d'être en tant qu'Église, que nous voulons continuer de professer, de dire haut et fort cette vérité. L'Église a reçu la mission d'être la gardienne de cette vérité. Souvent, des fois, on voit que dans certaines églises, certains pasteurs vont proclamer qu'ils ont la vérité. Et les gens vont accourir après auprès d'un certain prédicateur, évangéliste, pasteur. Et ces pasteurs, malheureusement, vont les entraîner loin du chemin de la vérité. On a besoin, en tant que personne, de toujours aller voir dans la parole ce que les gens vont dire sur scène, vont prêcher. Est-ce que c'est vraiment la vérité de Dieu? On ne peut pas contredire la parole de Dieu. On doit aller dans la même direction. On doit aller avec le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la vérité du Seigneur. En Timothée, chapitre 3, verset 4, verset 15, va dire, « Tu saches, en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Le défi souvent, donc, dans l'Église, c'est qu'on focus sur des sujets qu'on pense importants, mais qui ne sont pas forcément importants aux yeux de Dieu. On va prendre peut-être notre propre argument, notre propre façon de faire les choses, au lieu d'établir la vérité de Dieu, au lieu de pouvoir proclamer la vérité qui libère, qui transforme. Chaque membre de l'Église doit justement continuer jour après jour, à travers la parole de Dieu, à travers l'écoute du Seigneur, à travers le Saint-Esprit qui nous parle, de dire, Seigneur, je veux connaître ta vérité, je veux mieux saisir ta vérité, je veux pouvoir obéir, suivre ta vérité jour après jour. Donc, au chat, on a vu justement que, on a vu que ces quatre raisons de l'Église ne peuvent pas se faire sans le concours de celui qui a tout donné pour l'humanité. Donc, Jésus nous a dit qu'il va bâtir son Église. Regardons justement quelques points où Jésus va nous dire comment il aime l'Église. Le premier point, il dit que Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Matthieu, chapitre 16, verset 18, dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Jésus a dit qu'il va bâtir son Église, et il a démontré à travers Pierre. Pierre était vrai, c'est vrai, un disciple que Dieu a formé. Avant tout, c'était un homme qui voulait faire de grandes choses par lui-même. Mais Jésus l'a formé pour qu'il puisse devenir un véritable disciple. Et là, sur Pierre, il a bâti l'Église. Il a bâti sur toutes les autres aussi disciples. Il a bâti sur le fondement des apôtres, des prophètes. On le voit justement, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » On sait dans le temps comment que la pierre angulaire était importante. La pierre, dans le temps, comme on regardait dans le temps, ces temps, je disais justement un peu dans le chronique, dans les rois, et on voit la construction du temple. Et on voit comment que Salomon a préparé toutes les pierres pour pouvoir construire le temple. Il n'y a eu aucune pierre qui a été comme cisaillée, taillée sur place. Elle a été faite loin et ensuite elle a été transportée. Et ils mettaient pierre par pierre et le fondement était solide. Le temple était solide. Ces pierres de base, qui étaient aux bases, étaient vraiment des pierres qui étaient solides. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire sur qui nous devons fonder tout notre espoir, toute notre vie. Encore aujourd'hui, le règne de Dieu sur terre se bâtit à travers l'Église, à travers les chrétiens qui sont renouvelés dans leurs pensées, qui leur offrent le corps comme un sacrifice vivant, comme on l'a vu justement dans Romains chapitre 12. Nous désirons que justement aussi dans l'Église Carrefour Saint-Henri, que nous puissions continuer de marcher selon le Seigneur, qu'on puisse continuer de voir que Dieu agit à travers chacun de nous. Prochain diable, Jésus est mort pour son Église. Acte chapitre 20, verset 2, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Jésus est mort pour son Église. Par son propre sang, il s'est sacrifié pour nous donner la vie. C'est l'amour dans sa démonstration la plus complète. C'est difficile de tout comprendre, l'amour de Jésus pour son peuple. Mais lorsqu'on voit tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le fait qu'il a donné la vie, le fait qu'il a voulu que l'Église puisse profiter pleinement de sa grâce, de sa bonté, cette mort sur la croix doit nous encourager à continuer d'être transformés pour refléter Christ jour après jour, pour dire que le péché n'habite plus en nous, qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Encore aujourd'hui, cette mort de Jésus-Christ sur la croix, ce sang qui a été versé, nous donne la vie, nous permet de refléter l'Église en prenant soin les uns des autres, en s'aimant d'un amour véritable, en se pardonnant réciproquement. Le troisième point, prochain dia, Jésus aime l'Église, comme on l'a dit. Donc Jésus n'a pas simplement aimé l'Église en s'offrant comme un sacrifice suprême. Il continue à démontrer son amour incroyable pour son Église, même en ce moment, même encore aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27, ouvrons notre Bible. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27, je lis dans la version second 21, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Dans ce texte, justement, Paul va donner justement une référence, un exemple du couple entre le mari et la femme. Et là, il dit au mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Souvent, des fois, on prend ce texte pour justifier que l'homme est par-dessus la femme, qu'il peut avoir soumettre la femme et tout ça. Mais dans ce texte, on voit qu'il dit aime. Aime ta femme comme Christ a aimé. Christ n'a pas voulu soumettre l'Église avec un joug profond, avec une discipline très grande. Il a aimé tellement l'Église qu'il s'est offert. Et il est le chef et il veut encore aimer l'Église aujourd'hui. Jésus continue de sanctifier l'Église, comme on le voit dans le verset 26 et 27. Dans ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix, nous permet d'être sanctifiés, lavés de nos péchés, afin qu'on puisse continuer de vivre non pas selon la chair ou selon les pensées de ce monde, mais selon les pensées de Dieu, selon la volonté qui est bonne de Dieu, qui est bonne, agréable, parfaite. Jésus a tellement aimé l'Église qu'il a donné son esprit pour qu'on puisse continuer de pouvoir, qu'il puisse continuer de nous accompagner à chaque jour, qu'on puisse pouvoir avoir cet esprit qui discerne quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous et pour son Église. Comme l'a dit Jésus, il aime tellement l'Église qu'il ne veut pas la soumettre à une contrainte, à des obligations, de faire des choses trop difficiles ou impossibles. Mais Jésus aime tellement l'Église d'une façon profonde qu'on peut expérimenter jour après jour tout son amour, sa grâce, sa compassion, sa bonté, sa fidélité. Jésus a aimé l'Église pour que nous puissions nous aussi aimer l'Église après. Jésus a aimé l'Église en premier pour qu'ensuite nous puissions aussi aimer l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ universel, c'est-à-dire aussi nos frères et sœurs autour de nous. Tout ce que nous avons reçu de la part de Jésus, on doit le refléter dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre témoignage, dans nos actions, les uns envers les autres. On vient de différents horizons, on est différents les uns les autres, mais ce qui nous unit ensemble, c'est justement ce sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, cette vie qu'il nous donne. C'est ça qui nous rassemble, de différentes cultures, même de différentes langues. Et la semaine passée, on a pu voir que justement, comment il y avait cette joie d'être ensemble dans l'Église. Et je sens que depuis un certain temps, on retrouve cette joie, on retrouve cet amour de l'Église. Oui, c'est vrai que du temps de la pandémie, on s'est accroché, on s'est encouragé les uns les autres, on a continué parce qu'on était seul à la maison, on ne pouvait pas se voir. Mais après la pandémie en 2022, on a été comme essoufflé, comme découragé. Et il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont quitté aussi l'Église, qui viennent juste de temps en temps. Et ça prend du temps pour voir, pour être renouvelé. Ça prend du temps pour que le Seigneur renouvelle notre esprit. Je sens que le Seigneur est en train de faire un travail de profondeur. Le Seigneur est en train de nous changer, nous transformer, pour que nous puissions ensuite transformer aussi le monde autour de nous. Donc Jésus aime l'Église et désire que tout son amour qu'il nous a donné, nous puissions le partager avec nos frères et sœurs dans l'Église en premier, mais aussi ensuite dans la société. Alors, à notre tour, nous devons aimer l'Église, malgré ses imperfections, malgré ses manquements. C'est vrai que l'Église, elle est faite de main d'homme. Ce sont des humains, les pasteurs, les leaders, ce sont des humains qui se trompent, qui font des choses qui, des fois, ne sont pas toujours selon la volonté de Dieu. Mais Jésus aime l'Église. Dieu continue de transformer l'Église pour la rendre sainte, irréprochable, sans tache, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, courbons notre tête et réalisons qu'encore aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il aime l'Église. Jésus aime l'Église. L'Église à qui il a s'est sacrifié, à qui il a donné la vie. Il veut que cette Église soit rayonnante. Il veut que cette Église soit sainte, irréprochable. Alors, il y a encore du travail à faire. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, ce n'est pas juste le pasteur ou quelques personnes. Chacun de nous, nous représentons l'Église. Si nous ne sommes pas renouvelés, si nous ne sommes pas inspirés par l'Esprit de Dieu, alors l'Église va aussi souffrir. Alors que nous puissions simplement prendre un petit temps pour dire, Seigneur, renouvelle mon esprit. Permets que je puisse mieux comprendre, saisir quelle est ta pensée pour moi. Quelle est ta volonté? Cette volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Permets que je puisse rayonner de ta joie. Que je puisse rayonner de ta gloire. Que je puisse rayonner de ta présence. Aujourd'hui, quand je suis avec mes frères et sœurs, mais aussi que lorsque je suis à la maison, au travail, avec mes amis. Parce que nous savons que l'Église, ce n'est pas juste un rassemblement de personnes physiques, mais jour après jour, nous représentons, nous sommes l'Église. Et le Christ veut encore nous dire qu'il aime le corps du Christ, il aime l'Église, et il veut qu'à travers l'Église, le royaume de Dieu se manifeste dans ce monde. Nous avons besoin de prier encore pour que l'Église puisse rayonner, puisse être cette lumière du monde. Aujourd'hui, les gens ont peut-être tourné le dos à l'Église, peut-être les gens ont tourné le dos à Dieu, mais au fond de eux-mêmes, ils ont encore un vide. Cette semaine, je lisais qu'un chanteur très renommé en France qui est décédé, qui était très reconnu, et il disait que dans toute sa vie, malgré qu'à travers ses chansons, il apportait la joie, l'amour aux autres, que les gens étaient contents de l'entendre chanter, mais que lui, au fond de lui, il n'était pas bien. Et qu'il a noyé une partie de sa vie à travers l'alcool, parce qu'il sentait qu'il y avait un vide. Et lorsque je lisais un peu ce, ce qu'il disait avant quelque temps, quand même avant sa mort. Je disais, oui, il a eu la gloire, il a eu l'argent, mais il n'a pas été capable de chercher ce qui vraiment pouvait combler sa vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, on a besoin de, des gens autour de nous ont besoin encore. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église. Ils vont se tourner vers d'autres choses. Mais on sait, on le voit, comment que la misère est en eux, comment que le vide est là, comment qu'ils n'ont pas de paix, comment ils n'ont pas de joie, comment que malgré tout ce qu'ils font, ils ont l'impression que leur vie est vide. Alors, l'Église, le corps du Christ, est là pour pouvoir rayonner de la présence de Dieu. Nous sommes appelés à faire partie de cette Église. Cette Église qui est rayonnante, qui est pure, qui est sans tache, pour pouvoir continuer d'apporter la lumière de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ce rappel de comment que tu aimes l'Église, de tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, tu nous démontres comment tu nous aimes. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as permis qu'on puisse se lever ce matin, de pouvoir venir dans ta présence, qu'on soit ici en présence et qu'on soit sur Zoom. Tu nous permets de pouvoir goûter les uns avec les autres de ta puissance, de ta présence, de ton amour. Ça nous permet que notre esprit puisse continuer d'être renouvelé en toi. Nous voulons, Seigneur, pas faire les choses à notre manière. Nous voulons pas faire les choses comme on l'a fait peut-être il y a 10 ans, 15 ans, lorsqu'on s'est converti. Nous voulons être continuellement renouvelés dans notre esprit. Nous voulons continuer d'être renouvelés jour après jour. Que ta parole nous édifie, que ta parole nous montre ce que nous devons faire. Que ta vérité, Seigneur, puisse être là présente, afin qu'on puisse, Seigneur, voir quelle est cette volonté qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Tu veux, Seigneur, que nous puissions être encore cette Église qui est lumière, cette Église qui est celle de la terre. Alors, Seigneur, donne-nous de ton esprit encore plus. Donne-nous d'être renouvelés dans notre intelligence, dans notre esprit, afin que nous puissions mieux te connaître, afin que nous puissions mieux vivre selon toi. Seigneur, nous te prions que, justement, lorsque nous allons quitter cet endroit, lorsque nous allons retourner dans nos occupations quotidiennes, que, Seigneur, nous puissions garder ces pensées en toi, que nous ne puissions pas garder, Seigneur, les pensées de ce monde, mais que nous puissions, justement, jour après jour, d'être renouvelés, afin qu'on ait tes pensées. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, que l'ennemi ne puisse pas nous distraire, ne puisse pas nous ramener des choses, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, des choses qui nous mettent dans le doute, des choses, Seigneur, qui nous préoccupent, des choses qui nous mettent dans la peur, dans la crainte. Mais Seigneur, donne-nous de discerner quelle est encore ta volonté. Donne-nous encore de discerner ces attaques de l'ennemi, afin que nous puissions continuer de rester sous ton regard, jour après jour. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur Jésus, pour cette semaine qui va s'ouvrir, pour aujourd'hui encore, que chacun de nous puissions continuer de lever les yeux vers toi, que nous puissions continuer, Seigneur, d'aller chercher ta grâce, ton amour, à travers ta parole, à travers ton esprit en nous, à travers nos frères et sœurs, à travers l'Église, pour que, Seigneur, nous puissions rayonner de toi jour après jour, et que le monde puisse voir que nous sommes de véritables chrétiens. Alors, merci. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu aimes encore l'Église aujourd'hui en 2023. Même, Seigneur, si c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite, même si l'Église a encore des tâches, n'est pas pure. Mais, Seigneur, tu nous demandes de continuer de travailler pour que le jour que tu reviennes, nous puissions nous présenter devant toi, pure, sainte, sans tâche. Seigneur, c'est ça que tu veux que nous recherchions. Et nous voulons, Seigneur, faire notre part pour que l'Église, nos frères et sœurs, puissent continuer de grandir avec toi et d'être les véritables témoins de toi. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus, que vraiment cette grâce, cette paix, cette bénédiction de ta part, que ta présence, que ton esprit renouvelle notre esprit, notre corps, notre cœur. Aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, nous en prie, ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.